La présence des protéines végétales est en croissance et le monde alimentaire, particulièrement les consommateurs, n'y sont pas indifférents. Tout d'abord, un coup d'œil général avec le professeur Maurice Doyon du département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation de l'Université Laval.
La demande de protéines animales, elle est en hausse sur la planète. Les pays en développement, plus les gens s'enrichissent habituellement, plus vont substituer la protéine végétale vers la protéine animale. Mais en Occident, c'est plutôt le contraire. On n'est pas vraiment encore en baisse de protéines animales, mais on a une substitution. On passe du bœuf vers le poulet, le porc. Et on peut penser qu'il y a un équilibre qui va se faire éventuellement, mais la demande de protéines animales sur la planète va monter et les protéines végétales qui sont utilisées comme substituts, telles qu'on les consomme en Amérique du Nord, bien, leur coût va diminuer, tout ça. Donc, il y a un équilibre qui va éventuellement se faire. Mais ce qui est important, je pense, de mentionner, c'est que l'essor de la protéine végétale en Occident, bien, ça ne vient pas du fait que les gens deviennent végétariens ou véganes. C'est vraiment les gens qui substituent un plat de protéines animales pour un plat à peu près équivalent, mais à base de protéines végétales. Et là, il y a deux écoles qui s'affrontent présentement. Il y a la première où on fait de la vraie protéine animale, mais en laboratoire. Alors, vous avez Just Meat, vous avez Perfect Day pour le lait. Alors, on a vraiment la protéine, l'ADN de l'animal. En laboratoire, on reproduit ça et on arrive à faire du vrai poulet, du vrai bœuf, du vrai lait, la protéine laitière. Donc, on peut faire des fromages, on peut faire tous les produits avec ça. Mais présentement, les coûts sont exorbitants. Une boulette à 40 000 $, 60 000 $, mais énormément d'investissements dans ce secteur-là. Donc, ce n'est pas à balayer là, comme ça. Et la question qui se posera éventuellement lorsque leur coût aura diminué suffisamment, c'est quelle sera l'acceptabilité des consommateurs. Parce que si on hésite avec les OGM, bien ça, c'est quand même pas mal plus que des OGM, à mon avis. Ce qu'on connaît davantage et qui connaît un essor très, très significatif, c'est vraiment des gens qui disent « Moi, je ne veux pas changer mon alimentation. Fais juste remplacer ce que je mange. Je mange un burger, là, ben remplace mon burger par quelque chose qui n'est pas de la viande. » Et ça, c'est vraiment l'essor que l'on voit. On voit aussi au niveau des... Et ça, ça fait plus longtemps, les produits de remplacement du lait, les boissons de soya, de riz, et etc. Et il y a un point marketing que je voudrais soulever ici qui est important. Si on regarde, par exemple, Beyond Meat, regardez sur l'étiquette, on dit c'est de la protéine, beaucoup, 20 grammes de protéines, c'est beaucoup, pas de soya, pas de gluten, pas d'OGM, c'est bon pour la santé. Donc, on vend cet aspect-là. Puis, il y a l'autre aspect aussi que l'on vend, c'est de dire on est tellement mieux pour l'environnement. Regardez le produit Just Egg, qui est vraiment un substitut de l'œuf qu'on peut faire des œufs brouillés, on peut le mettre dans des recettes. Et on s'est intéressé, particulièrement mon groupe de recherche, à c'est quoi, est-ce que c'est vrai ce que l'on dit là? Et sans dire que c'est faux, on pourrait dire tout simplement que le calcul n'est peut-être pas généreux pour les œufs, puisqu'on fait le calcul jusqu'à l'entrée de leurs produits dans leur usine, alors qu'on calcule l'œuf qui, lui, est produit, qui est déjà consommable. Alors, il faut comprendre qu'une usine en Amérique du Nord, on fait bouillir ce truc-là, on prend beaucoup d'énergie. Après ça, on le transporte à grandeur de l'Amérique dans un contenant en plastique, contrairement à un œuf qui est produit habituellement localement dans un carton recyclable. Alors, ça, c'est la première chose. La comparaison n'est peut-être pas la bonne. La deuxième chose, c'est qu'on compare sur un kilogramme de produit. Bien, écoutez, un kilogramme de laitue, je ne peux pas comparer ça avec un kilogramme d'œuf. Hein? Vous comprenez bien que la protéine est importante. Donc, si je le compare sur la base protéine, là, je m'aperçois que le Just Egg n'est pas si intéressant. Et si je le compare sur la base de la protéine digestible, parce que l'œuf, c'est la référence en protéines digestibles. Alors, si je prends du Just Egg puis que finalement je l'élimine, bien, je ne l'ai pas absorbé. Alors, à ce moment-là, l'œuf, son empreinte environnementale devient nettement plus intéressante. Tout ça pour mentionner que ça devient très difficile éventuellement pour notre consommateur de savoir qu'est-ce qui est vraiment un bon attribut. Est-ce que c'est vraiment meilleur pour l'environnement? Et ça va être un enjeu sur lequel je pourrais élaborer. Mais pour terminer, malgré tout ça, écoutez, ces produits-là de remplacement de protéines animales dans les mets, on parle d'une croissance d'environ 30 % annuelle dans les supermarchés, ce qui est énorme. Donc, produit qui a beaucoup de traction.
Pourcentage de croissance important, oui, mais sur la base de parts de marché qui sont encore très minces. Dans le secteur laitier, on est fortement interpellé par la montée des produits à base de protéines végétales. Le président d'AgroPure, Roger Massicotte, se dit qu'il faudra améliorer l'information auprès des consommateurs sur les attributs et la valeur des protéines animales.
Produire du lait sans végétaux, là, moi, je suis une à ma ferme, je ne suis pas capable de faire ça. Là. Je suis premièrement un producteur de végétaux. Si demain matin, là, écoute bien, là, si tout le monde veut boire du lait d'avoine, là, mais on va virer le Québec en champ d'avoine s'il faut faire ça. Là. Mais on n'est pas là, là. Moi, je ne suis pas rendu là, là. Il vient de le dire, Maurice, la qualité de protéines, on a sous-estimé de faire de l'éducation avec ça. Aux États-Unis, on est le plus grand producteur de protéines de WPC, la qualité de protéines qu'il y a dans le lactosérum. C'est à ça que ça sert, ces protéines-là, pour des médicaments. C'est à ça que ça sert pour les gens qui s'entraînent pour rehausser leur forme, leur musculation. Pourquoi ils ne prennent pas de la protéine végétale pour faire ça? Pourquoi ils ont besoin de la protéine laitière pour faire ça? Il y a des raisons en arrière de ça. Mais je ne veux pas sous-estimer le changement du consommateur. Mais on a beaucoup d'éducation à faire là-dessus. Puis là, ben, le guide alimentaire nous a tout mis dans la même assiette, là, les protéines. Là. Il a mis ça dans un coin et il a dit, ça, c'est des protéines. Là. Mais ce n'est pas vrai que demain matin, les Chinois ils ont compris que le lait canadien, là, pour nourrir un bébé, là, c'est important. Ils ont eu des fléaux dans le temps. Là, on le sait, là, la mélamine que ça a fait en Chine. Là. Puis il y a un essor incroyable pour la protéine laitière pour faire le développement humain. Hey, on ne reviendra pas à l'âge-pierre, là, on ne retournera pas. On n'est pas des végétariens total, là, l'être humain. Là, on est carnivore, on est végétarien. C'est pas vrai qu'on va venir, on ne retournera pas dans l'océan pour se nourrir. Là.
Pour Richard Davis, vice-président principal vente et marketing chez Olimel, il faut être attentif aux possibilités et défis qu'apportent au marché des viandes les protéines végétales. Cependant, sur la base du marché planétaire, il voit les protéines végétales comme étant, et pour un bon moment encore, très marginales.
Quand je regarde les protéines alternatives, là, puis je mets ça en perspective, je regardais une étude récemment là, qui venait d'une université, je ne me rappelle pas laquelle, puis on parlait d'un marché mondial là, de 10 milliards qui s'en va vers une valeur d'à peu près de 15 milliards là, d'ici 2025. Donc, ça représente à peu près 1 milliard de kilogrammes ou 1 million de tonnes métriques par année. Là. Juste pour mettre en perspective là, la production de viande, toute origine, et incluant plus les fruits de mer et les poissons, sur la planète, là, c'est 500 millions de tonnes métriques par année. Là, on parle de 1 million de tonnes métriques par rapport à 500 millions de tonnes métriques au niveau des viandes, des poissons et fruits de mer. Donc, oui, la tendance, c'est sûr que ça fait beaucoup de bruit. Nous, on surveille ça, on essaie de voir là, si des lignes potentielles de protéines alternatives ou végétales sont possibles. Les intégrer aussi dans certaines offres de produits, on va les considérer. Là. Mais avant de penser qu'il va y avoir un revirement considérable en 5 ans ou en 10 ans ou en 15 ans qui va être matériel, qui vont impacter de façon significative soit la consommation de poissons, fruits de mer et viande, je pense que c'était réaliste. Là. Il y a quand même des enjeux de coûts qui interpellent ce secteur d'activité-là. Il y a des enjeux, ce que je vois là, quand je regarde les Beyond Meat et les autres produits, des enjeux pour rendre le produit intéressant au palais, mais une notion d'ingrédients. Je vous invite à regarder la liste d'ingrédients de ces produits-là, les comparer aux listes d'ingrédients qu'on a pour les produits laitiers ou les produits de viande. C'est hallucinant là, ce qu'ils doivent mettre dedans pour le rendre intéressant. Fait que de penser que ça va partir puis de l'ignorer, je pense, c'est ignorant. Nous, on continue à le suivre. Je pense qu'on l'encourage. Ça fait partie du développement de l'évolution. Mais à mon avis, ça va prendre beaucoup de temps avant que ça devienne, mettons, mainstream, là. C'est mainstream en termes de bruit en ce moment-là. Mais je vous invite à regarder les chiffres macro-mondiales. C'est une peanut, là. C'est rien. Puis même dans les 5 prochaines, ça va juste être une plus grosse peanut dans 5 ans, là, mais ça va rester une peanut. Donc, il faut l'avoir à l'œil. Il faut comprendre essentiellement les consommateurs. Puis je pense que c'est un baromètre d'intérêt et de besoin des consommateurs. Puis en termes de manufacturiers, on a tout intérêt à savoir, mais pourquoi ces consommateurs-là s'intéressent à ces types de produits-là, même si l'accès est quand même limité présentement, là. Puis ça va être à nous à se redéfinir puis s'ajuster là, pour continuer à se rendre intéressant et des produits de choix là, pour demain. Là.
Qu'il faille encore plusieurs années avant qu'elles sortent de la marginalité, cela importe peu, car selon le professeur Maurice Doyon, les protéines végétales auront de plus en plus d'influence sur tout le milieu de la production agroalimentaire.
Un phénomène qui est quand même intéressant à observer, c'est que c'est plus nécessairement une question de revenus. Pour avoir fait quelques études exploratoires et tout ça, c'est pas les gens qui ont le plus de revenus qui vont manger bio ou des choses comme ça. C'est vraiment des convictions, puis beaucoup, les jeunes sont beaucoup plus sensibilisés, je dirais. Donc, avec une génération qui monte comme ça, on va vivre de plus en plus les problèmes. On en a des conséquences directes. Oui, je pense que ça va avoir un impact, puis ça va forcer des changements dans la production. Là.
Ici Lionel Levac. Les protéines végétales ne détrôneront pas les viandes et autres protéines animales demain matin. Mais ne pas être ouvert et attentif au nouveau contexte qu'elles créent serait une erreur. Au revoir.